Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bonsoir à tous, bienvenue en direct, vous êtes sur Radio Présence pour Soif d'autre chose, votre émission jeune hebdomadaire comme chaque lundi, on vous accompagne dans ce début de soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h au programme de notre émission, de la musique et aussi des entretiens. On va repasser quelques entretiens que nous avions eus à Exode avec Louis-Marie Gabriel, notamment avec le cateau de service et le père Gaspard Crapelet. Voilà, le programme est lancé, c'est parti pour Soif d'autre chose. Et on commence cette émission en musique avec Michel Sardou, c'est en chantant sur Radio Présence. On se retrouve juste après avec le cateau de service.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson.
En chantant, c'était Michel Sardou sur Radio Présence. Tout de suite, vous retrouvez la rediffusion de l'entretien avec le cateau de service. Vous êtes bien sur Radio Présence en direct du village des jeunes pour cette session Exode 2026, notre plateau spécial. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 18h et pour notre nouvel invité, Victor Dubois. autrement appelé aussi le cateau de service, plus connu sous le nom du cateau de service, est avec nous en studio. Bonjour Victor.
Bonjour.
Alors Victor, vous êtes influenceur, vous évangélisez sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau moyen d'évangélisation maintenant. Quel a été le déclic justement de se lancer là-dedans ?
Je parlais déjà beaucoup de Dieu autour de moi, j'étais un peu la référence cateau de mon groupe de potes, et puis il y a un ami en soirée qui m'a surnommé le cateau de service. Et depuis, c'est un surnom qui me colle au front.
Ouais.
Et en fait, je vérifie ça un peu tout le temps quand je parle avec des gens. C'est vers moi, curieusement, je comprends pas pourquoi, mais c'est vers moi, curieusement, que les gens venaient parler de la foi. Et donc, moi, j'aimais bien. Je voyais que ça me rendait heureux et puis que ça apportait vraiment des vraies réponses aux gens. Et en plus de ça, c'est les conversations les plus passionnantes qu'on puisse avoir sur Dieu, le sens de la vie, etc. L'Église, c'est vraiment magnifique, quoi. Il y a toutes les réponses cohérentes dans la foi. Je trouvais ça trop bien, je voulais le dire largement. Et puis, en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller sur les réseaux. Il y a une amie qui m'a encouragé à faire ça en même temps. Sur les réseaux, il y avait de tout, de la danse classique, du cinéma, plein de choses. Pas assez de catholiques. Donc j'ai testé. Et puis ça a pris progressivement.
Ça a marché. Bah, les réseaux sociaux qui est un nouveau moyen d'évangélisation. On connaissait l'évangélisation de rue, l'évangélisation aussi par la messe, la louange. Est-ce que c'est quand même différent sur les réseaux sociaux ?
C'est forcément un petit peu différent parce que la forme change et puis il y a un petit peu de la société du spectacle en quelque sorte sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il faut accrocher l'attention, il faut utiliser des codes particuliers pour que la vidéo soit vue et c'est là un peu tout le danger qu'il peut y avoir aussi parce que si on veut dire quelque chose et que ça touche des gens, il faut que ce soit vu et pour que ce soit vu, il faut aussi jouer des codes et donc c'est là où il y a une forme d'attention à avoir pour être sûr que ce qu'on met en avant, c'est toujours le message, en quelque sorte, et pas nous-mêmes. Mais donc oui, il y a quelque chose de différent que tous les moyens classiques, entre guillemets, traditionnels, mais en même temps, c'est hyper complémentaire parce qu'on ne fait rien d'autre, on ne réinvente rien. On fait juste parler de l'Église, parler de Jésus et de tout ce que l'Église a déjà dit avant nous. On ne fait que transmettre avec les nouveaux moyens.
Oui, c'est vraiment tout le défi d'arriver à garder un message qui soit intègre, mais en gardant tout le contenu de la vérité, mais pour autant adapter aussi un langage qui soit compréhensible à ceux qui ne connaissent pas du tout la foi, ce qui parfois peut-être pour les gens qui sont déjà habitués à la foi depuis tout petit, qui ont peut-être un peu du mal à rejoindre les gens là où ils sont, quand ils sont parfois éloignés de la foi ou justement qui n'ont rien reçu. C'est le cas de beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont soif d'autre chose, qui veulent aller vers le baptême, qui veulent découvrir l'Église. Et parfois, leur porte d'entrée justement tombe là où ils sont, donc sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc c'est là qu'on voit justement que ces moyens touchent. Et comment est-ce qu'on peut voir en fait, du coup, cette porte d'entrée-là et se dire, voilà, quelqu'un qui aujourd'hui découvre la foi, veut apprendre des choses, il commence peut-être par les réseaux sociaux, mais ça ne suffit forcément pas. Oui. Comment est-ce qu'on peut du coup, trouver une suite un peu logique à ça, à ce premier contact entre guillemets, avec la foi ?
Je pense qu'on est un peu comme des tremplins ou des ponts. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être un premier contact. Le premier contact, soit il donne des raisons d'adhérer, soit il explique, soit il défait quelques clichés, ou alors il encourage. Et je pense que c'est ça la finalité, c'est que ça doit encourager. C'est là où c'est un pont. C'est que en voyant des prêtres sur les réseaux, en voyant des catholiques qui assument complètement la foi, ça donne envie, la prochaine fois que quelqu'un passe devant une église, d'y entrer. Et j'espère en tout cas, et c'est dans ce sens-là que vont beaucoup de témoignages qu'on reçoit aussi sur les réseaux, c'est que ça devient un pont. Ce qu'ils voient sur les réseaux les prépare en quelque sorte psychologiquement à les voir après, à aller rencontrer un prêtre, à aller parler avec des cathos, à poser des questions à leurs proches chrétiens aussi. Donc c'est un peu ça, le but de nos chaînes, c'est juste d'amener vers le Christ incarné en quelque sorte, même pas en quelque sorte finalement, c'est vers l'Église. Le but c'est d'amener les gens à vivre la foi en pratique et donc forcément à rejoindre leur paroisse, un groupe de prière, etc. D'abord en sensibilisant en quelque sorte et puis en enlevant tous les obstacles qu'il peut y avoir avant même d'y aller.
Il n'y a pas une sorte de pression aussi parce que c'est... Comme vous disiez, la première fois qu'ils entendent parler du Christ, c'est la première étape. Il devrait quand même y avoir peut-être une petite pression aussi sur peut-être ce qu'on l'on tente d'enseigner, ce qu'on essaye de montrer, non ?
Il y a une petite pression. La pression que je vois, celle qui, moi, m'a le plus impressionné, c'était que je sentais dans les messages que je recevais que peu importe ce que j'allais répondre à la personne qui pose une question, elle va me croire. Et c'est là la pression. Elle va me croire peu importe ce que je dis. Et donc ça me responsabilise. Il ne faut pas que j'invente, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Il faut que je sois sûr de ma réponse, il faut que je me forme en même temps. Donc ça force à étudier la théologie, à l'histoire de l'Église, les questions liturgiques, les questions morales, lire le catéchisme, tout simplement, les pères de l'Église. Et c'est là la pression. C'est en fait, ça responsabilise vraiment.
Ouais.
Et en même temps, ça force à vivre cette foi qu'on prêche nous-mêmes d'abord. Il faut que cette, j'allais dire, entre guillemets, prédication, mais après, enfin, je ne sais pas si on prêche vraiment, mais en quelque sorte, il faut que ce soit comme un débordement de notre propre vie. Mmh. Si c'est juste une manière de, pour nous, vivre en chrétien, ce n'est pas suffisant. C'est comme si ça nous dédouanait en quelque sorte de notre propre responsabilité spirituelle. Il faut d'abord qu'on soit engagé dans nos paroisses, il faut qu'on évangélise d'abord de notre côté, il faut qu'on ait une vie prière active, qu'on aille à la messe, qu'on se confesse, que ce soit vraiment notre vie.
Un témoignage de l'état de vie finalement.
Oui, finalement. Et puis après, les réseaux, c'est un débordement, une explication, un truc plus en détail.
C'est la forme et on enseigne le fond dessus.
On peut dire ça comme ça.
Parce qu'après, ce qui serait, pourrait être aussi un piège, ce serait d'avancer, enfin, d'essayer de faire ça un peu seul et de se, parfois de s'improviser peut-être sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Bien sûr, il y a des prêtres qui sont présents sur les réseaux et qui enseignent et qui, eux, donc, sont formés pour ça et c'est toute leur vie. Mais c'est vrai que pour des laïcs, parfois, ça peut être un peu un terrain glissant d'essayer de prendre des positions ou d'essayer d'imposer quelque chose. Est-ce que, enfin, vous, personnellement, vous arrivez à quand même avoir une attache assez, assez forte à un père spirituel ou à des prêtres pour justement ne pas avancer seul et éviter de trop s'égarer, soit dans une vision trop personnelle, soit même pour garder vraiment une certaine intégrité dans les paroles qui sont dites quand il s'agit d'enseignement, mais aussi tout simplement pour garder entre guillemets les pieds sur terre et ne pas essayer de trop déborder en fait sur des choses qui seraient hors de votre portée.
Bien sûr, c'est une des choses qui reviennent en premier en fait. Il faut qu'on s'entoure. On dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est ce qu'on dit aux nouveaux convertis. Ben, c'est un truc qu'on doit appliquer nous-mêmes d'abord. Et effectivement, j'ai un perspi, il y a des prêtres qui sont abonnés, qui suivent ce que je peux publier. On a des groupes entre nous aussi, entre créateurs de contenu, on essaie d'échanger un petit peu, on peut se donner des retours s'il faut. On échange, et puis globalement, même si jamais il y avait une maladresse sur une publication, en fait, les commentaires après, derrière, et les messages en privé, ça ne pardonne pas. Donc si on a fait une maladresse, on le voit très vite, et heureusement, on peut corriger rapidement. Ça m'est, grâce à Dieu, pas arrivé encore de faire de grosses bourdes. J'espère que j'en ferai pas. Je fais tout pour que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, si jamais ça devait arriver, il y a des gens pour revenir derrière.
Ouais.
Et voilà. Et même avant ça, il y a des gens pour que ça n'arrive pas, pour réduire au maximum les chances. Et puis même, personnellement, moi, je prends vraiment à cœur d'être entouré. Et je sens très bien que si j'étais tout seul dans le truc, je m'essoufflerai en quelque sorte.
Oui, c'est très bon, c'est très équilibré. Et justement, parfois, étant donné que les réseaux sociaux sont très vastes et que tout le monde peut donner son avis et tout le monde peut parler, il y a forcément parfois aussi peut-être de l'adversité ou de l'incompréhension qui peut se manifester. Comment est-ce que ça peut être vécu en tant que créateur de contenu, du coup, de parfois être face à des gens qui sont ignorants ou qui juste manquent de respect, tout simplement, parce que ça peut arriver, je pense. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de situation quand ça arrive?
C'est arrivé dernièrement, il y a un gars qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour m'insulter après une vidéo. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je n'avais pas vu son message, mais après une deuxième vidéo, il m'a réinsulté. Et là, j'ai vu son message parce qu'il est remonté dans la liste des messages reçus. Et donc, j'ai ouvert son message, j'ai essayé de lui répondre de mon mieux, parce que je me dis que personne de normalement constitué n'insulte quelqu'un juste parce qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a eu un choc, il y a eu quelque chose, ça l'a touché d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut essayer d'expliquer ça, de voir ce qui a touché et de répondre avec toute la bienveillance dont on est capable. C'est ce que j'ai essayé de faire et en fait, la personne s'est excusée après. Il a demandé pardon de m'avoir insulté. J'ai trouvé ça trop beau de sa part. Donc, d'un côté, il y a ça qui arrive et qui réencourage. Donc, en fait, quand on se dit que quelqu'un n'est pas d'accord ou qui est violent, bah, en fait, c'est quelqu'un qui galère, lui, de son côté. Et donc, c'est une personne, simplement, qui vit et puis qui a trouvé comme seul moyen d'exprimer cette recherche, une insulte. C'est un premier pas. Bon, on peut trouver mieux comme premier pas, mais après, si on se dit que c'est un premier pas, ça permet de l'accueillir différemment. Et en même temps, les gens qui ne sont pas d'accord, ça permet vraiment de remettre en question aussi. Moi, je sens que ça me fait vraiment grandir. Tout à l'heure, je disais que les réseaux, ça doit être un débordement de notre propre pratique. En fait, notre pratique est aussi alimentée par ce qu'on vit et par ce qu'on voit sur les réseaux. En fait, c'est comme un cercle vertueux quand on le prend dans le bon sens. Les avis divergents, ça nous remet aussi en question. Et c'est une bonne chose. Après, à voir, tout n'est pas bon à prendre. Mais il y a des choses, quand ils sont vraiment constructifs, ça peut aider. Après, le truc qui est un peu dommage, c'est quand malheureusement, les critiques viennent de notre propre camp. S'il y a des gens qui... sont un peu trop virulents, en quelque sorte, parmi les chrétiens ou parmi d'autres religions aussi. Il y a beaucoup de gens d'autres religions qui essayent de défaire, ou des personnes athées qui ne supportent pas qu'on parle de Dieu et qui vont écrire des choses très difficiles après. Voilà, c'est comme toujours, on se dit juste, c'est des gens. C'est un premier pas, et puis chacun galère comme il peut, et puis chacun se débrouille avec ça comme il peut. À nous d'être bienveillants. Et comme dit Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Donc on essaye d'aimer les gens. C'est pas facile, mais on essaye. Et puis on s'améliore, quoi.
Merci beaucoup Victor Dubois d'être passé nous voir ici dans ce plateau en direct depuis le village des jeunes de la session Exode 2026. Présence. De retour en direct du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du village des jeunes pour la continuation de ce plateau en direct, toujours avec moi Louis-Marie Gabriel. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et nous avons donc notre nouvel invité, un invité que vous connaissez sûrement, le père Gaspard Crapelet. Bonjour mon père.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur de deux livres, Libre pour aimer en vérité, Joie de la confession. Vous êtes aussi membre de la société de prêtres de Saint-Jean-Marie Vianney. Merci de nous faire l'honneur d'être sur l'antenne de Radio Présence. Alors on va aborder avec vous deux thèmes que vous avez abordé dans vos livres, la confession et la chasteté, Louis-Marie.
Oui, tout à fait. La confession d'abord, avec forcément un moment assez important ici, dans ce temps de carême, et encore plus ici à Lourdes. Donc vraiment, on est au cœur de ce beau sacrement de la pénitence. On a entendu ce matin l'évangile du Fils prodigue, qui est très parlant.
Je pense aussi que vous avez l'occasion, pendant cette session, de pouvoir recevoir des jeunes, en tout cas on l'espère, en confession. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que globalement les jeunes ont soif de cette miséricorde et de trouver d'étancher cette soif dans ce sacrement-là de la réconciliation?
Alors bien sûr, moi, je vois que les jeunes ont soif de miséricorde, bien sûr aussi, comme leurs aînés, ils ont peur d'aller se confesser, parce que c'est pas facile d'aller se confesser, d'abord à cause des péchés qu'on a pu faire et donc dont on a honte, et puis le fait de devoir le dire, voilà. Et alors ça fait partie des choses importantes, parce que Jésus a donné ce pouvoir en disant remettez les péchés, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, donc il s'agit de le dire, et ça c'est pas évident. On aimerait bien pouvoir le dire ça simplement dans les bois, à des arbres et tout ça, mais voilà, il faut le dire devant un prêtre. Alors évidemment le prêtre, heureusement, il est tenu au secret absolu, et puis on le dit à une seule personne, alors que Saint Jacques dit confessez vos péchés les uns devant les autres. Donc si on appliquait complètement la Bible, on confesserait tous devant tout le monde, mais là on est content de se confesser qu'à une seule personne. Par contre, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'il va penser, etc. Donc ça, c'est un des éléments difficiles pour les jeunes. Maintenant, les jeunes, ils ont besoin de réconciliation, d'estime d'eux-mêmes, parce que c'est un sacrement comme il nous refait à neuf, on a de nouveau de l'estime pour soi, et si on s'aime soi-même, eh bien après, on peut plus facilement, bien sûr, aimer les autres. Donc je dirais qu'il me semble qu'il y a un renouveau, disons qu'ils ont moins les a priori, les jeunes des anciens, même si les difficultés sont toujours là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que si on parle bien de la confession, de ce beau sacrement, eh bien à ce moment-là, on a envie de le recevoir.
Oui, c'est tout le titre de votre livre, La joie de la confession. Cette joie, donc forcément, on la comprend bien, parce qu'on voit bien que la confession ne s'arrête pas juste à nos péchés, mais que ça va bien plus loin, et que surtout que la miséricorde de Dieu est bien plus grande, et que son amour dépasse très largement tout ce qu'on peut faire. Et on l'entendait encore ce matin, hein, l'homélie que nous donnait Monseigneur Mika sur justement la conversion, le retour à Dieu. Tout ça est très d'actualité en ce temps de carême, et on l'avait dit encore une fois aussi, hein, à Lourdes, un grand lieu de ressourcement. Pas seulement pour les corps, mais aussi pour les cœurs et les âmes. Pendant cette session, on peut s'attendre aussi ce soir à une veille d'adoration, et comme très souvent, et comme c'était le cas l'an dernier, il y aura aussi des confessions pendant ce temps d'adoration. Est-ce que on peut voir un peu un lien souvent entre, comme ça, ces veillées d'adoration et ces confessions qui ont lieu en même temps, d'avoir ces deux grandes choses qui sont là devant nous, d'un côté le Saint-Sacrement, de l'autre la confession?
Alors c'est vrai que c'est très lié, et je me souviens d'un jeune un jour, je lui demande de quand date ta dernière confession, et alors il me dit l'année dernière avec vous au même camp. Et puis avant même que je dise quoi que ce soit, il me fait, mais c'est de votre faute, parce que si vous aviez organisé une veillée adoration confession, je me serais confessé. C'est-à-dire que en fait, c'est se mettre en condition. Quand on est sous le regard de Dieu, eh bien à ce moment-là, on voit plus nos péchés, on voit plus ce besoin, on voit aussi les autres. Donc il y a quelque chose de communautaire là, on voit aussi les autres qui y vont, et du coup il y a une sorte d'appel d'air qui fait qu'on se dit allez, je vais y aller aussi. Et puis il y a aussi le retour, c'est-à-dire quelle joie de pouvoir prendre un temps de cœur à cœur avec Jésus en étant pardonné de nos péchés. La confession, ça dure qu'un instant, mais la joie après, elle dure, et là on est face à Dieu. Et donc c'est pour ça que les jeunes aiment tant aller se confesser dans ces temps d'adoration, même si pour moi je fais toujours précéder ça d'un enseignement où on peut être heureux, comprendre comment le prêtre est heureux, comment Dieu est heureux, comment les autres sont heureux qu'on aille se confesser. Bref, il faut quelque chose pour oser faire cette démarche d'aller tout déposer au pied du prêtre.
Ce qui est très beau justement d'avoir ce temps d'adoration, c'est surtout ce qui est bien surtout, c'est surtout d'avoir cette présence du Saint-Sacrement. Et en fait, c'est très beau aussi parce que non seulement du coup la confession nous restaure complètement, ce qui est d'autant plus beau parce qu'on a besoin d'avoir cette âme qui est lavée, qui est un peu remise à neuf, pour s'approcher dignement aussi hein, du Saint-Sacrement. C'est quelque chose qui est important de rappeler à tout moment hein, de la vie chrétienne, de toujours garder en tête que s'approcher du Saint-Sacrement et recevoir le Christ, c'est pas anodin. Et donc c'est très important d'y être bien préparé, et la confession, je pense que vous pourrez nous en dire un peu plus, est vraiment le meilleur moyen pour ça.
Voilà, oui, c'est le meilleur moyen parce que en fait Dieu, il fait un miracle à chaque fois. À chaque fois qu'il agit, il agit d'une façon miraculeuse. Alors bien sûr, on le voit bien à la messe, le pain et le vin sont là et deviennent le corps et le sang du Christ, mais à la confession, Dieu, il donne pas un petit pardon, un moyen pardon, il donne tout et nous refait complètement à neuf. Et ça, une fois qu'on l'a compris, il y a une vraie joie. C'est pour ça que, d'ailleurs, les jeunes, quand ils sortent du sacrement de la confession, ils sont joyeux et souvent, ils disent merci Père, par exemple. Et ça, moi, ça m'amuse parce que nous, le prêtre, il a rien fait, le prêtre. C'est Dieu qui fait tout. C'est pas moi qui pardonne. Voilà. Mais ils disent quand même merci d'avoir été là. Voilà. Alors, il s'agit de les mettre en confiance. Et donc, moi, j'aime bien raconter l'histoire que j'ai racontée là aux jeunes tout à l'heure du capitaine Darberg, qui était un anti-catholique convaincu en camp de prisonniers en Allemagne. Il est forcé, parce qu'il a rien à faire, d'assister à une conférence sur Notre-Dame de la Salette. Il est très touché, comme tout le monde. Tous les soldats sont touchés, mais lui, il est touché aussi. Et ça l'énerve d'être touché, parce qu'il trouve que tout ça, c'est stupide. Et donc, il s'évade et il dit, je vais aller voir Notre-Dame de la Salette, si c'est vrai. Et si elle existe, la Sainte Vierge, eh ben, elle m'aidera pour l'évasion. Et il arrive à Notre-Dame de la Salette, il se convertit. Et donc, il envoie une carte postale, une lettre qu'on a toujours, et où il décrit son évasion. Il envoie ça aux copains qui sont encore prisonniers. Et il leur décrit surtout sa conversion et sa confession. Et il dit, à chaque fois que je disais un péché, eh bien, le prêtre disait, bien. Alors j'en dis un autre, bien. Alors du coup, il a dit un péché très grave qu'il n'osait pas dire. Très bien. Alors du coup, il a dit le truc qu'il a sorti derrière les fagots, un truc ancien. Parfait. Voilà. Et il a dit, mais c'est pas parfait du tout ce que j'ai fait. C'est parfait ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur.
Exactement, c'est très beau. Donc, la Salette, Lourdes, on a cette présence de Marie qui est aussi là pour nous accompagner. On se doit de marcher main dans la main avec elle pour qu'elle nous conduise vers son fils. Et Marie, c'est aussi un symbole très beau, un symbole de pureté, un symbole de chasteté. C'est aussi le thème de votre ouvrage le plus récent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors oui, la chasteté, c'est un peu lié avec le sacrement de la confession parce que, en fait, ce qui nous rend heureux, c'est d'être, en fait, des gens qui sont droits, qui ont une certaine unité de vie et qui sont pas dans l'hypocrisie. Jésus passe son temps à fustiger les hypocrites. Les hypocrites, ceux qui disent et qui font pas. Eh bien, nous, on a ce haut idéal de réussir une vie de couple, de réussir nos relations, et c'est la notion de chasteté qui est si importante. Être chaste, c'est avoir intégré sa sexualité pour être dans le don de nous-mêmes et non pas pour être dans je mets la main sur l'autre et j'attends que l'autre me rende. Voilà, on n'est pas là pour prendre et pour recevoir de l'autre, mais on est là pour se donner. Et si les deux se donnent, eh bien c'est ça la chasteté, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans un mariage, c'est d'entendre je me donne à toi pour toujours et non pas je te prends tant que tu m'apportes quelque chose.
Alors la chasteté aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus sexualisé, qui parle de plus en plus de sexe, où il est moins tabou, hein, avec une libéralisation des mœurs, etc. Comment, aujourd'hui, en tant que jeune catholique, on peut être chaste tout en n'étant pas en marge du monde?
Alors, je crois qu'il y a une sorte, aujourd'hui, une sorte de renouveau, un désir de pureté, de vivre les choses franchement, sans compromis. Et donc la chasteté aujourd'hui est attirante. J'ai vu quelqu'un qui n'était pas du tout chrétien, hein, et qui disait moi je rêve que ma future femme soit chaste, et j'en tire les conséquences que moi je veux l'être aussi, je veux lui faire ce cadeau. Alors j'ai été surpris par le nombre de likes qu'il y avait sur cette vidéo. De même, j'ai un jeune qui m'a dit nous entre copains chacun disait ses exploits et tout ça sexuel et tout ça, et il disait moi j'ai menti, et pour me faire bien voir j'ai raconté des tas de choses. Et son copain à côté a dit non, mais moi, je veux me garder pour ma future femme. Et tout le monde a trouvé ça génial en disant waouh. Et alors lui, qui me racontait ça, il avait l'air bête. Il se dit mince. Voilà. En fait, il y a quelque chose de particulièrement beau, de rayonnant dans la chasteté. C'est-à-dire quelqu'un qui est solide et qui est prêt à se donner. C'est ça qui est beau. Voilà. Et personne ne rêve d'être aimé par quelqu'un qui s'accroche à nous, qui est un peu dégoulinant. Là, reste avec moi. S'accrocher. En fait, on rêve de liberté. Et donc, si on s'accroche à nous, on n'est pas heureux. On a envie de partir. Et la beauté, c'est pour ça que ce que j'appelle la chasteté, c'est deux êtres solides qui vont pouvoir se donner. Et souvent, je trouve, j'aime bien dire que c'est beaucoup plus rentable, parce que deux personnes qui s'accrochent, il faut énormément d'énergie pour accrocher l'autre, parce que l'autre veut s'échapper. Et il y en a, ils prennent le téléphone de l'autre, ils vérifient ce que l'autre a liké, il y a des messages et tout ça, ils sont jaloux dès que l'autre se met à parler, etc. Alors que si on est solide et qu'on va, et là, il y a la confiance, et honnêtement, ça rayonne. La liberté est nécessaire à l'amour. Là, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour.
Alors, Augustin, qui est notre commentateur de nos reportages depuis le début de cette session Exode qu'on accueille en plateau. Bonjour Augustin.
Bonjour. Autour de cette question de la chasteté, comment nous, en tant que chrétiens, catholiques, on peut aider des amis qui vivent par exemple en concubinage et tout ça, à vivre la chasteté?
Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est, je pense que le plus important, c'est de faire marcher son cerveau pour essayer de comprendre le pourquoi. Et donc là où on voit que la chasteté est tellement rayonnante et apporte tellement, parce qu'elle laisse l'auteur libre et donc on construit quelque chose de solide. Moi j'aime bien dire que pour construire un igloo, il s'agit d'incliner les blocs dès le début. Il y a une méthode. Si on ne respecte pas l'arrondi, si on fait des murs verticaux, quand on met la voûte, tout s'écroule. Oui. Donc si il n'y a pas à la base un respect de la liberté de l'autre, on va le payer 15 ans plus tard.
Oui.
Forcément, parce que les fondations seront pas là. Et donc, bien sûr, c'est exigeant, mais en même temps, c'est là que c'est beau. Et comme quand on part en montagne, quand on a compris qu'il a été le sommet, on a la motivation. Moi, je suis avec des jeunes tout le temps. Si je leur explique ce qu'on va voir au sommet et la beauté des paysages après, ils sont motivés, ils sont prêts à en baver. À condition, bien sûr, qu'on y aille dans la joie. Parce que si on part trop vite, par exemple, si on n'est pas équipé, on va souffrir sur le trajet. Mais si on prépare bien l'expédition, il y a une vraie joie et on comprend. Donc, à mon avis, ce qui manque, c'est d'avoir compris pourquoi. Pourquoi mettre la main sur l'autre, c'est oblitérer sa liberté et on y perd. Moi, je disais à un jeune, il me dit, mais tu sais, une fille bien, ça court pas les rues. Moi, une fois que j'en ai trouvé une, oui, je la chope et je la lâche plus. Je dis, oui, mais tu te prives de ce don qu'elle pourrait faire à toi. Elle pourrait se donner à toi. Et c'est quand même génial. Et je lui dis, en fait, si tu l'aimes vraiment, si tu l'aimes pour elle-même, pas pour toi, mais pour elle-même, c'est ça la chasteté, tu accepterais qu'elle discute avec d'autres. Tu accepterais même qu'elle tombe amoureuse d'un mec mieux que toi, puisque le gars est mieux, tu veux son bonheur, tu te réjouis. Alors elle me dit, c'est pas compliqué et tout ça. Mais je dis oui, mais si au contraire tu la laisses libre, elle peut discuter. Moi, un jeune plus âgé me dit, ça me dérange pas, ma future fiancée, de la laisser discuter avec des tas de gens. Au contraire, elle ne reviendra vers moi qu'avec une conviction, c'est qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, quelqu'un qui est solide et qui cherche pas. Parce que quand on s'accroche, on est ce que dit Salomon, celui qui veut acheter l'amour, qui s'accroche, ne recueille que le mépris.
On voit que la chasteté, du coup, peut être vécue dans tous les états de vie. Vous, en tant que prêtre, vous la vivez forcément différemment. Parfois, c'est même mal compris. Le célibat des prêtres, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, qui fait débat, qui est parfois mal compris par les gens dehors et même dans l'église. Vous, très concrètement, dans le concret du quotidien, comment est-ce que vous vivez cette notion de chasteté?
En fait, il me semble que la chasteté, c'est une manière d'être qui inclut toute la vie. C'est dans nos relations. C'est-à-dire qu'on peut prêcher de façon non chaste. Ce matin, j'ai fait un enseignement. Je peux le faire pour élever les gens et les aider, tous ces jeunes, ou bien je peux le faire en attirant à moi. Là, ça se sent en fait la question. La chasteté, c'est j'ai envoyé un message et j'attends une réponse. Mais non, si j'ai envoyé le message, c'est gratuit et je laisse les gens libres. Voilà. Et donc ça, c'est toute une éducation. Et lorsque on vit vraiment la chasteté, il y a quelque chose qui rayonne. Et ça, c'est y compris pour nous prêtres. Et je crois que comme Jésus lui-même le dit, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit-il. Voilà. Donc, nous les prêtres, on doit être dans ce don de nous-mêmes. Et si jamais on se laisse aller, c'est-à-dire qu'on abandonne un peu la prière, on est moins ancré en Dieu, on va moins être dans le don de nous-mêmes. Et il me semble, à ce moment-là, avec mon expérience depuis 20 ans, que je suis prêtre, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire que si on commence à plus avoir de vitesse, à plus avancer, sur le chemin de la sainteté, à ce moment-là, on peut tomber et les chutes peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on va essayer de se reprendre. C'est-à-dire que, oui, un peu comme un enfant. Un enfant, il donne, il est tout content de donner. Et puis après, il va dire, ah ben maintenant, je vais reprendre. On est obligé de faire leur apprendre cette phrase. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Mais tous, on peut avoir tendance à vouloir reprendre, c'est-à-dire à mettre de nouveau la main dessus. Et là, on sent bien que ça ne va pas, que ce n'est pas chaste. Voilà. Et donc, dans nos relations, il s'agit d'être chaste, faire grandir les autres sans mettre la main dessus. C'est un entraînement qu'ont les pères de famille ou les mères de famille, puisqu'un enfant, on le laisse grandir et ensuite, eh ben, il va vivre sa vie. Hein, le but d'un enfant, c'est pas qu'il vive toute sa vie avec ses parents. Eh bien, de même, un prêtre, il doit faire grandir les gens et puis, au Seigneur la gloire, mais pas à moi, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire.
C'est très pertinent de vous entendre dire ça, parce que vous particulièrement, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc vous avez une certaine visibilité, ce qui peut être parfois un risque hein, qu'encourt n'importe quelle personne, mais encore plus en tant que prêtre, vous qui êtes appelé à vous donner à tous et être disponible à tous, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, et même on l'avait entendu encore avant avec Mgr Mika qui nous parlait d'un effacement qui lui tient très à cœur, et c'est, je pense, dans le cœur aussi de toute personne, mais encore plus quand on a une telle visibilité. Vous, aujourd'hui, très concrètement, comment est-ce que vous arrivez à avoir ce détachement-là et à garder ce recul, entre guillemets, de pouvoir s'effacer et de pas garder, enfin, de faire en sorte que les gens ne soient pas attirés à vous, mais au message.
Voilà. Et en même temps, donc, on voit Saint Paul, il dit, imitez-moi mes frères, voilà. Il essaie de faire en sorte qu'ils soient aimés, parce que si on est aimé des gens, eh bien, on peut faire aimer Dieu. Voilà. C'est à propos de Saint Vincent de Paul, les gens disaient, oh, comme Dieu doit être bon, puisque son serviteur est si bon. Voilà. Donc si on est juste désagréable, ben, c'est sûr qu'on va pas faire aimer le bon Dieu. Donc il faut être aimable et en même temps, il faut pas se gonfler d'orgueil. Il faut savoir que les gens, ils veulent voir Dieu. Alors moi, dans ma vie, j'ai eu cette chance d'avoir une période un peu difficile quand j'ai été nommé auprès des jeunes. Ça marchait pas du tout, donc j'ai un peu déprimé. Donc si on me dit vous êtes un prêtre extraordinaire, ben, je sais que moi il y a 8 ans on disait pas ça. Donc alors je suis le même. Donc je sais que je suis pas extraordinaire. Et puis deuxièmement, ce sont des jeunes qui m'ont demandé de faire ces petites vidéos et moi, pour l'instant, j'ai cette chance d'être sur le terrain tout le temps. C'est-à-dire que je suis en camp, on a construit une belle croix, on construit des igloos, et là, c'est dommage que d'autres ne profitent pas de cela et des enseignements que j'ai pu faire. Et donc, il y a des jeunes qui me posent des questions. Et donc, je leur dis, est-ce que vous voulez pas faire une vidéo? Évidemment, ils sont très contents de pouvoir faire une vidéo. On fait une vidéo sur la question, ça permet de profiter. Disons que c'est ça, ce que je vis en camp permet d'être, grâce au réseau, Ça permet un rayonnement, ça permet de diffuser plus large, voilà. Mais et je crois que les gens qui s'abonnent, etc., sont conscients que je fais ça en plus, en marge, voilà. Mais donc j'ai cette chance parce que mon ministère principal, c'est pas du tout d'être sur les réseaux sociaux ni d'écrire des bouquins, mais c'est d'aider les jeunes à grandir dans la foi à travers des camps qui sont très physiques, très fraternels et bien sûr très spirituels.
Merci beaucoup mon père, le père Gaspard Craplet, qui était notre invité dans ce plateau jusqu'à 18h en direct du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci beaucoup mon père.
Merci, avec joie.
Avant de retrouver le cateau de service pour un témoignage justement sur les nouveaux modes d'évangélisation, notamment à travers les réseaux sociaux, on va faire une petite pause musicale avec Calogero. Je joue de la musique sur Radio Présence, on se retrouve juste après.
Présence. Je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux.
C'est la fin de Sauf d'autres choses. Merci d'avoir été fidèle à votre émission, comme chaque lundi de 19h à 20h, votre émission hebdomadaire qui vous fait commencer la semaine en compagnie de la paroisse étudiante. On se retrouve pas la semaine prochaine, puisqu'à 18h30, Radio Présence se mobilise en direct de la cathédrale Saint-Étienne pour vous faire vivre la messe chrismale, cette belle entrée dans la Semaine Sainte. On se retrouvera le lundi de Pâques. Tout de suite, je vous laisse avec Nathalie Cardon, Des clés pour vivre les rues de Toulouse. À la semaine prochaine, en direct donc de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Et puis vous retrouvez Sauf d'autres choses le lundi de Pâques. Très bonne semaine.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.